Eh bien, bonsoir. Un grand nombre de personnes qui sont dans la salle sont présentes depuis ce matin. Donc, merci beaucoup. Je remercie les étudiants en particulier d'être venus depuis 9 heures pratiquement en continu. Donc, c'est une journée consacrée aux relations animales, à l'expérimentation animale, que nous avons déclinée sous diverses formes, conférences, tables rondes, séminaires sur le web, brillamment mené par Georges Chapoutier tout à l'heure, et puis nous terminons par une conférence. Je remercie particulièrement Jean-Louis Touraine qui a accepté, on va dire grâce à l'intermédiation de Catherine Coutel, qui a permis de le contacter, mais il a accepté très rapidement. Et je dois dire que même on a été en contact téléphonique à plusieurs reprises, et je trouve vraiment très très sympathique que vous ayez accepté de venir en ayant un emploi du temps chargé. Vous étiez à 3 à 12 heures. Il m'a dit, je veux essayer de venir par tous les moyens. Alors on a combiné et finalement on a trouvé un créneau à 20h30. Sinon, c'était impossible. Quelques mots rapides de présentation. Donc, vous êtes député de la 3e circonscription du Rhône, mais d'un autre côté, vous êtes professeur en médecine. Je vais simplement citer deux mots-clés qui ont caractérisé votre activité médicale, je dirais transplantation d'organes, et vaccination, en particulier recherche sur la vaccination anti-SIDA. Je ne sais pas si ça suffit pour vous qualifier, mais vous pourrez bien sûr compléter. Et dans le cadre de vos activités parlementaires, vous êtes membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Et c'est dans ce contexte-là que l'on vous a repéré pour compléter, on va dire, cette journée, puisque vous avez commis avec un de vos collègues qui s'appelle Michel Lejeune, un rapport qui finalement a été repris. Et moi, je l'avais vu passer au niveau de l'industrie pharmaceutique, puisque je crois que vous aviez été sollicité à plusieurs reprises pour intervenir dans des réunions du LEM. C'est ça, c'est exact. Et donc, ce rapport traite de l'expérimentation animale en Europe. Et en particulier, c'est cela qui nous intéressait ici, quelles alternatives, quelle éthique et quelle gouvernance. Donc, encore une fois, merci. Et nous sommes très attentifs à votre présentation.
Merci très vivement. Merci de ces paroles trop élogieuses et surtout merci à vous de consacrer quelques instants de cette soirée à une réflexion, j'allais presque dire un débat en commun sur cette question. Je vais essayer de ne pas être long dans l'exposé parce que ce qui est le plus intéressant est probablement d'avoir un débat, des questions-réponses et d'essayer de coller si possible aux préoccupations des uns et des autres puisque naturellement, d'une génération à l'autre, d'une activité à une autre, l'angle sous lequel on étudie cette préoccupation est naturellement différent. Et je pense qu'il faut que l'on puisse trouver ensemble. C'est bien l'objectif, comme dans toutes les questions de bioéthique, c'est de trouver la voie commune qui permet à tous les composants de la société de se trouver à l'aise dans une décision commune, sans extrémisme, sans interdiction excessive, mais sans éviter d'avoir un encadrement qui soit rigoureux et qui ne permette pas des dérapages, comme il y a pu y en avoir dans le passé, parce que l'histoire est là pour nous montrer qu'il y a eu dans le passé, comme il y a eu des médecins nazis, et on le regrette évidemment, il y a eu aussi des expérimentateurs farfelus, et il faut qu'on puisse empêcher cela pour l'avenir, parce que ce serait inacceptable dans un pays civilisé. Donc, comment les choses se sont déroulées, comment j'y ai été confronté, et de façon très simple, à quoi avons-nous abouti ? C'était le 20 mai 2008, donc c'est pas bien vieux, que le bureau de l'Assemblée nationale a saisi l'office que vous avez cité tout à l'heure, qui s'appelle l'OPECS, Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est un office qui regroupe un petit nombre de députés, dont le député maire de cette ville, et un nombre équivalent de sénateurs qui sont en général des gens ayant soit une formation, soit un intérêt pour les sciences et qui évaluent un petit peu toutes les questions de toutes les sciences. Alors c'est passionnant parce qu'on y apprend, parce que des fois on est dans son domaine. Moi je suis médecin et biologiste, donc je peux contribuer un petit peu dans ce domaine. Mais quand il s'agit de physique nucléaire, des préoccupations pour l'Antarctique, tout ça, j'écoute, j'apprends. Et donc c'est un office qui est chargé d'éclairer les députés pour les décisions prises au niveau législatif. Et donc, l'Office a donc été saisi par l'Assemblée nationale sur la question de l'étude sur les principes applicables en Europe pour l'expérimentation animale et les méthodes alternatives à celle-ci. Alors, pourquoi y a-t-il eu cette saisine ? Parce que il y avait dans l'air la révision d'une directive européenne, directive qui date du 24 novembre 1986, mais qui était soumise à révision. Et on pouvait craindre que les éléments qui amènent à prendre des décisions soient principalement de nature passionnelle ou sous l'influence de lobbies, mais pas basés sur une réflexion assez approfondie. Et donc il était important que quelques pays, dont la France, fassent un travail préparatoire et proposent au niveau du Parlement européen comme de la Commission et du Conseil de l'Europe des recommandations et des propositions. Et c'est vrai qu'à cet égard, la France a été un des pays qui a le plus œuvré à cette préparation. Et d'ailleurs, la directive qui, au bout du compte, a été prise s'est largement inspirée des recommandations énoncées. Alors ce travail, ça a abouti à nommer deux députés, hein, Michel Lejeune et moi. Alors Michel Lejeune, lui, c'est un vétérinaire qui est député de Seine-Maritime. Moi, je suis professeur de médecine et dans le Rhône. Et on a eu un peu plus d'un an pour, en définitive, élaborer tout un tas de recommandations en se basant sur le niveau des connaissances et des réflexions dans la société, non pas seulement française, mais européenne. Et on a d'ailleurs même élargi en allant aux États-Unis. Donc on a fait des auditions, d'abord des auditions à Paris, c'est le plus facile, parce qu'il y a pas mal de gens qui, venant de différentes villes françaises, pouvaient venir à Paris pour énoncer leurs préoccupations, leurs soucis, leurs inquiétudes, leurs besoins. Et donc des scientifiques, des représentants des pouvoirs publics, mais aussi des associations de défense des droits des animaux. Ça va de la Fondation Brigitte Bardot à tout un tas d'autres associations. Et donc on s'est nourri de toute cette diversité de points de vue. Ensuite, on a fait des voyages. Donc je vous l'ai dit, aux États-Unis, au NIH, à Bethesda, même aussi toujours en dehors de l'Europe politique en Suisse, et puis surtout dans les capitales européennes, à Londres, à Berlin, à Stockholm, à Bruxelles, etc. Et tout ça nous a amené à voir qu'il y avait une grande disparité dans les règles, mais que de partout, il y avait un désir commun d'améliorer la situation et évidemment d'homogénéiser un petit peu les réglementations au niveau des différents pays européens. Qu'il y avait des philosophies différentes en Europe de ce qui existait en Asie ou même de ce qui existait aux États-Unis, et que notre singularité avait du sens et correspondait à une culture partagée par la plupart des pays européens. Ensuite, on a fait un rapport, hein, qui a été, c'est celui-là, qui a été enregistré à l'Assemblée nationale et au Sénat le 9 décembre 2009. On l'a bien sûr aussi envoyé à Bruxelles. Et ça a permis de nourrir cette réglementation européenne. Je vous rappelle, hein, pour les plus jeunes, que les directives européennes s'imposent dans tous les pays. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, dans un pays, d'élaborer une loi qui soit en contradiction aux directives européennes. La directive européenne a la priorité. Donc c'est tout à fait important de ne pas se faire imposer des interdictions qu'on n'accepterait pas ou des recommandations qui nous seraient imposées, parce qu'après, on n'y peut plus rien. Après, on a le droit on a une marge de manœuvre qu'à l'intérieur du carcan qui nous est ainsi imposé, ainsi qu'aux autres pays européens. Donc c'est tout à fait important, quand on sait qu'une directive européenne va être prise, d'influer en amont et non pas d'attendre qu'elle arrive, et puis après de se dire « Ah ben oui, mais on ne peut plus faire ce qu'on doit faire ». Donc ceci a permis à ce que le projet de révision dont on avait eu connaissance et qui avait un petit peu comme tendance à proposer l'interdiction pure et simple de toute expérimentation animale sans en mesurer les conséquences, sans en voir même l'impossibilité, puisque dans notre réglementation, il est imposé que différents produits, avant de pouvoir être donnée à l'humain a été testée. Et il n'y a pas d'autre méthode pour évaluer les effets toxiques de certains produits. De même qu'il y a déjà aussi des décisions qui ont été prises, y compris au niveau européen. Par exemple, ce qu'on appelle la réglementation REACH, qui suppose que tous les produits chimiques doivent être évalués pour leurs effets, y compris sur l'animal d'expérience. Et donc, ça représente des dizaines de milliers de produits qui sont à tester. Et donc, on risquait de se retrouver avec cette situation un peu ubuesque, de dire c'est interdit de faire l'expérimentation, mais par ailleurs, elle est obligatoire avant qu'un nouveau produit. Ou alors, il fallait se dire, ben, on s'interdit toute utilisation de tout produit chimique dans l'Europe, ce qui aurait été un petit peu délicat. Donc, voilà un petit peu comment ça s'est fait. Et puis, le résultat a été qu'en définitive, le 22 septembre 2010, voilà la directive 2010-63 du Parlement européen et du Conseil de l'Europe relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et donc qui reprend certaines des recommandations. Il y a quelques nuances dont on pourra parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors quel est le contexte? Le contexte, c'est donc déjà ce jeu entre les différents pays européens et puis les directives européennes. Le deuxième contexte, c'est cette nécessité qui est la nôtre actuellement, de tester tous les produits nouveaux, mais même des produits chimiques déjà utilisés, parce qu'on découvre souvent trop tardivement leurs effets néfastes. Et que quand on les implique, par exemple, dans un nouveau médicament ou dans une nouvelle utilisation, si on ne connaît pas les limites de leur innocuité, alors on peut faire des erreurs. Et donc cette réglementation doit être l'objet de travaux pendant les années toutes prochaines. Troisième élément du contexte, c'est un phénomène qui s'appelle la transgénèse. Je pense que parmi vous, beaucoup sont de formation scientifique ou connaissent en tout cas ce procédé qui permet, en agissant sur les gènes d'animaux, par exemple les souris, de développer des nouvelles variétés de souris qu'on appelle transgéniques, qui sont d'une utilité considérable pour comprendre de nouvelles maladies, pour comprendre l'influence d'un gène, pour comprendre la possibilité ou non de pouvoir traiter, corriger, prévenir certaines maladies. Les progrès qui ont été effectués depuis les premiers animaux transgéniques sont considérables grâce à cette méthode. Et on est loin d'avoir produit tout ce que cela pouvait faire, à telle enseigne qu'actuellement, dans beaucoup d'animalerie, il y a autant d'animaux transgéniques que d'animaux, je dirais, naturels, si on peut les appeler ainsi. Et donc, ceci suppose, par contre, de développer pas mal d'animaux, parce que pour chaque gène que vous voulez étudier, il faut développer une nouvelle lignée d'animaux. Et alors, c'est évidemment une utilisation d'animaux programmés pour des expériences et ça représente un nombre qui n'est pas négligeable. Donc vous voyez, d'un côté, il y a ces possibilités, ces perspectives, ces besoins du progrès thérapeutique. De l'autre côté, il y a une aspiration tout aussi légitime et importante que nous éprouvons tous, qui est de dire il importerait de réduire aux seules nécessités impérieuses l'utilisation des animaux et de le faire dans des conditions qui soient parfaitement sereines, sans douleur, sans souffrance, sans difficulté, sans inhumanité. Et donc, il est clair qu'on doit être les uns les autres sensibles à ces deux tendances opposées. D'une part, le besoin, la nécessité d'améliorer le regard et la protection vers l'animal. D'un autre côté, de ne pas tomber dans l'obscurantisme et de dire ben, on supprime tout ça, on s'arrête, on ne fait plus de progrès, on ne met plus à disposition aucun nouveau médicament, on abandonne les malades à leur sort et on ne teste plus rien. Évidemment, on ne peut pas basculer ni totalement d'un côté ni totalement de l'autre. Et donc, il nous faut trouver cette voie moyenne. Je voudrais donc dire que c'est cette recherche d'une conciliation entre ces deux tendances opposées qui nous a animés. Je voudrais ajouter un point qui me paraît très important et qui n'est pas toujours perçu par tous ceux qui se penchent sur cette question. Bien souvent, les gens croient que l'animal est utilisé uniquement pour le bienfait de l'homme C'est vrai qu'une grande partie, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, une grande partie des utilisations, c'est soit pour connaître, soit pour mieux traiter des maladies humaines. Il ne faut pas négliger aussi que certains animaux, en totalité ou en partie, sont l'objet de progrès qui sont pour l'intérêt de l'animal, en général, et de la biodiversité également. Je veux dire par là que l'homme, maintenant, on le sait, a une responsabilité. On a malheureusement eu une responsabilité dans la dégradation des conditions de vie sur notre planète. Il importe qu'on ait maintenant une responsabilité dans l'amélioration de ces conditions. On a modifié l'écosystème, il faut en être conscient. Pas seulement le réchauffement climatique, mais l'ensemble de l'écosystème. Maintenant, on en connaît les règles, les lois. Si on ne corrige pas certaines choses, mais si on ne régule pas non plus les choses, on aura des catastrophes. Et donc, il est important de connaître les conditions qui permettent de protéger les animaux. Dans la vie sauvage, dans la vie naturelle, les animaux sont exposés à beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques, beaucoup, beaucoup de catastrophes, comme le seraient les humains si on revenait à une vie soi-disant naturelle où, je vous le rappelle, la longévité moyenne était de l'ordre de 30 ans avant que les progrès de l'hygiène, de la médecine et des autres protections ne permettent aux humains de devenir centenaires. Mais ce n'était pas le cas dans la nature initialement. Et bien pour les animaux, c'est pareil. Si on veut améliorer leur longévité, leur protection contre des prédateurs excessifs, des dangers de toute nature, mais aussi des réductions de biodiversité, il faut qu'on connaisse les facteurs qui influent. Et donc le travail expérimental là-dessus permet de protéger l'animal. Alors c'est aussi d'ailleurs le cas pour les animaux qui sont à proximité des humains, que ce soit les animaux d'élevage ou tous les autres animaux. Leur offrir des meilleures conditions suppose qu'on connaisse les maladies dont ils peuvent être victimes, qu'on puisse les prévenir ou les traiter, qu'on puisse les vacciner, qu'on puisse... Et tout ça, ça suppose une certaine forme d'expérimentation. Donc l'expérimentation n'est pas faite sur l'animal pour l'homme. Elle est faite sur l'animal et sur l'homme pour l'amélioration de l'ensemble des espèces vivantes. Et quand je dis sur l'animal et sur l'homme, parce que je vous rappelle que quand on met en route une nouvelle thérapeutique, certes, on fait des essais in vitro, certes, on fait des essais sur l'animal d'expérience, mais ensuite, on fait ce qu'on appelle les phases 1, c'est-à-dire sur des humains sains qui n'ont pas la maladie et à qui on donne des doses progressivement croissantes parce que ces gens sont volontaires et qu'ils acceptent de se soumettre. Alors, on a le devoir de faire en sorte qu'ils ne prennent pas trop de risques, mais ce sont quand même des humains qui se soumettent à un travail de nature expérimentale. Tout ce travail sur l'expérimentation animale est sous l'égide de ce qu'on appelle la règle des 3 R, qui a été édictée par les anglo-saxons, par les anglais, mais qui s'applique de la même façon en français. C'est... remplacer chaque fois que possible l'utilisation d'animaux par des méthodes alternatives, c'est réduire le nombre d'animaux impliqués dans les expériences, et c'est raffiner ou perfectionner les conditions dans lesquelles les animaux sont hébergés et traités dans ces travaux expérimentaux. Alors le remplacement, c'est un vœu qu'il faut cultiver, qu'il faut développer. Il ne faut pas croire que c'est possible du jour au lendemain. C'est une utopie de dire que du jour au lendemain, vous allez tout remplacer l'animal par des tests in vitro pour une raison toute simple, hein, d'ailleurs, qui est facile à expliquer. C'est que quand on injecte une molécule, un médicament par exemple, sur quelqu'un, ce n'est pas seulement la molécule elle-même qui va agir. C'est toute une multiplicité de ce qu'on appelle les métabolites, c'est-à-dire des produits dérivés qui vont être modifiés dans le foie, dans le rein, dans d'autres organes. Et donc, au bout du compte, après, ça va être une vingtaine ou davantage de molécules, dont certaines sont beaucoup plus toxiques que le produit initial ou beaucoup plus actives également. Et si vous testez juste une molécule sur une lignée cellulaire, vous n'avez qu'une toute petite partie de l'histoire de ce que fait en bien et en mal la molécule introduite dans l'organisme. Donc, pour l'instant, on ne peut pas totalement se passer de cette utilisation chez l'animal entier. Alors, on peut faire des modélisations, des utilisations de lignées cellulaires multiples. Il y a en même temps et de la biologie cellulaire et même des modèles mathématiques qui sont utilisés pour essayer de se substituer en partie. Et en définitive, ça permet de réduire le nombre d'expériences requises chez l'animal. Mais ça ne permet pas de se substituer complètement. Alors, il est vrai que ça a permis, cette histoire de remplacement, d'éviter certaines utilisations qui étaient abusives, voire choquantes. En cosmétologie, par exemple, tous les produits étaient testés longtemps, beaucoup, sur les cornets de lapins, etc., bon, avant d'être administrés sur la peau de nos compagnes. Et c'est vrai que, quand même, beaucoup de lapins ont souffert de cela de façon un peu indue. Actuellement, on a des tests in vitro qui permettent de savoir les effets sur des lignées cellulaires appropriées et permettent d'exclure les molécules qui pourraient être irritantes, allergisantes, dangereuses, etc. Bon. Donc c'est possible. Hein. S'il y a des domaines dans lesquels la substitution possible, d'autres domaines ne le sont pas encore. De plus, quand quelqu'un, un chercheur, découvre une nouvelle méthode alternative, en toxicologie, en effet sur le cœur, sur ci et ça, et on voit que sur une lignée de telle cellule, on peut en définitive mimer l'effet sur l'organisme entier. Avant que ça soit validé, il faut bien qu'il y ait encore une dernière fois une expérimentation animale comparative à l'expérimentation in vitro pour savoir si l'effet est aussi sensible, aussi efficace et s'il n'y a pas de risque de laisser passer des molécules dangereuses. Donc, je pense qu'on doit être nourri de l'idée qu'il faut davantage développer les méthodes alternatives. Il ne faut pas rêver d'une substitution du jour au lendemain. Elle ne peut se faire que progressivement et elle demandera encore énormément de travaux et de recherches qui nécessitent d'être encouragées, ça c'est tout à fait vrai, mais qui ne permettent pas du jour au lendemain d'évincer le recours à l'animal in vivo. La règle du remplacement veut aussi dire non seulement il faut remplacer par des méthodes alternatives chaque fois que possible, mais il faut aussi remplacer chaque fois possible par l'espèce animale. Alors, j'ose pas dire inférieure, parce que est-ce qu'il y a des espèces supérieures et inférieures ? Je crois que c'est un peu choquant de les présenter comme ça. Mais en tout cas, on comprend bien que si telle expérience peut être conduite avec autant de qualité de résultats chez un lapin plutôt que chez un singe, on préférera la faire chez le lapin, évidemment. Et donc, on va substituer le lapin au singe. Ensuite, si on peut la faire plutôt chez la souris plutôt que chez le lapin, évidemment, on va substituer le recours à la souris plutôt que l'autre animal. Donc, vers des espèces qui, sans être inférieures, mais qui ne véhiculent pas la même totalité de l'ensemble des problèmes. Alors, j'entends que certaines associations disent que toutes les espèces doivent être considérées de la même façon, ce qui est en partie vrai. Il n'empêche que nous ne considérons pas tout à fait un moustique ou une drosophile à l'égal d'un primate non humain dans la pratique. On le sait bien. Et donc, je crois qu'il faut quand même continuer à garder cette idée qu'à défaut de pouvoir trouver toujours le test de substitution, qu'au moins on utilise l'animal qui apparaît dans l'échelle du développement, sûrement pas le plus élevé, et pour réduire l'utilisation aux espèces dites supérieures. Alors, la réduction, ça veut dire utiliser moins d'animaux. Mais je vous ai dit, en même temps qu'on dit ça, on dit il faut tester plein de produits avec la réglementation REACH, il faut développer des animaux transgéniques, etc. Donc, c'est contradictoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ce qu'on fait, c'est qu'on diminue considérablement le nombre d'animaux dans chaque expérience. On est amené à faire beaucoup plus d'expériences que dans le passé. Et puis, il y a plus de chercheurs que dans le passé. Et puis, il y a plus de besoins dans des domaines où le progrès au niveau mondial se développe. Par contre, quand avant, on faisait des séries, certains d'entre vous se rappellent d'une époque où on faisait ce qu'on appelait la dose létale 50%. Ça voulait dire de traiter 100 animaux pour voir à quel niveau il y en avait 50 qui mouraient de l'effet toxique. Bon, ça ne se fait plus, tout ça. Et heureusement, maintenant, en traitant un tout petit nombre d'animaux, grâce au progrès de l'imagerie, grâce à des prélèvements sanguins ou d'autres natures sur l'animal traité ou soumis à expérience, alors on peut avoir des informations encore plus précieuses avec un nombre très très réduit d'animaux, mais beaucoup mieux analysés, beaucoup mieux observés que dans les grandes séries que l'on faisait avant et qui utilisait beaucoup trop d'animaux. Donc on va dire que l'un balance l'autre. Oui, on fait beaucoup plus d'expériences qui utilisent des animaux, mais à l'inverse, dans chaque expérience, on utilise infiniment moins d'animaux que dans les générations passées. Et donc on respecte quand même peu ou prou cette recommandation, cette règle, cet objectif de réduction du nombre d'animaux. Le raffinement et le perfectionnement sont des choses qui ont déjà beaucoup progressé, notamment en France, dans les 3 dernières décennies. Avant, il y avait une liberté à peu près totale qui existait. Mais depuis les années 80, les conditions d'animalerie, les autorisations, les surveillances, les contrôles, ce que font les services vétérinaires, tout cela a tellement progressé qu'on est déjà maintenant, dans beaucoup de cas, à se dire que les conditions d'hébergement des animaux sont bien meilleures que les conditions d'hébergement de certains humains. Et qu'à certains égards, on a plus honte de voir comment on offre le gîte à certains humains plutôt qu'aux animaux. Alors, ça n'en remet pas en cause. Je pense qu'il ne faut pas faire l'un ou l'autre. Il faut faire l'un et l'autre. Il faut améliorer l'habitat humain. Mais ça ne remet pas en cause les bonnes conditions et même le désir de continuer à améliorer les conditions pour l'animal, puisqu'il y a maintenant même des propositions faisant en sorte que les animaux trouvent même, je ne sais pas s'il faut appeler ça des activités ludiques, mais en tout cas qu'il n'est pas seulement des conditions confortables, qu'il n'est pas toujours la bonne nourriture, la bonne eau, les conditions de température, etc., mais qu'ils aient même de quoi s'occuper, s'amuser, etc. Et il faut savoir que ces animaux d'expérience n'ont pas grand-chose à voir avec les animaux à l'état sauvage. Ce sont des animaux qui ne peuvent pas vivre, pour la plupart d'entre eux, hors des cages. Si vous les libérez, ils ne survivent que quelques heures ou quelques jours. Ils sont incapables de se défendre dans le monde extérieur. Donc c'est une vie peut-être un petit peu artificielle, mais ils sont nés dans ces conditions-là. Ils vivent dans ces conditions. De même, d'ailleurs, que les animaux domestiques, quelquefois, ne sont pas dans des conditions proches de la vie sauvage. Et donc, ils ont des besoins particuliers. Il faut qu'ils trouvent dans leur cage de quoi s'occuper, de quoi... Il y a des gens qui ont fait beaucoup de recherches sur la psychologie et le développement de ces animaux et qui sait ce qui est opportun pour eux. Donc, je pense que c'est une chose qui mérite d'être tenue en ligne de compte, même s'il ne faut pas non plus, des fois, basculer dans l'excès à cet égard. Mais c'est quelque chose qui mérite d'être réfléchi. Alors, pour vous donner quelques chiffres, pour que vous voyez de quelle dimension est cette préoccupation. En Europe, quand je dis l'Europe, évidemment, les pays les plus importants, ce sont l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. À un moindre degré, les pays d'Europe du Nord et un petit peu aussi l'Italie et l'Espagne. Mais c'est vrai que si vous singularisez déjà les 3 pays que sont la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, vous avez déjà la majeure partie des activités. Mais pour l'ensemble de l'Europe, au total, c'est 12 millions d'animaux par an qui sont utilisés dans des expérimentations animales. Parmi ceux-ci, 77,5% sont des rongeurs. Et même en grande majorité des souris, puisque de tous les animaux, des 12 millions, 53% sont des souris. Donc vous voyez que la grande majorité, ce sont des souris développées dans les laboratoires à ces fins d'expérimentation animale. Ensuite, 15% d'animaux à sang froid, 5% d'oiseaux, etc. Quels sont les types d'études auxquelles ces animaux sont confrontés? Il y a des études de biologie fondamentale pour comprendre des mécanismes, pour savoir à quoi sert un gène, à quoi sert un organe, à quoi sert une molécule, pour faire progresser le champ des connaissances. 33%. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas d'application. Ça en aura, mais secondairement. L'étude n'est pas immédiatement faite pour une application thérapeutique. Donc c'est 33%. Les études à des fins d'application en médecine humaine et vétérinaire, 48%. Et je dis que ce n'est pas un hasard si on n'a pas voulu dissocier. C'est parce qu'on n'est pas capable de mettre la frontière entre les deux. Quand vous faites une étude sur tel ou tel cancer, sur telle ou telle maladie qui est comparable chez le chien et chez l'humain, la recherche que vous faites, elle va s'appliquer aux deux. Et après, les bénéfices thérapeutiques vont s'appliquer aux deux. La médecine vétérinaire se nourrit beaucoup des médicaments qui ont été développés pour l'homme, parce que si ça marche chez l'homme, ça marche aussi sur des animaux domestiques. Et donc, il faut simplement adapter la dose après. Bon. Donc, on ne peut pas arriver à dire la recherche, elle n'est que pour la médecine humaine ou que pour la médecine vétérinaire. Les deux vont de pair et ça représente 48%. Pour le diagnostic de maladie, c'est 2%. Pour la toxicologie et l'évaluation de la sécurité de produits, c'est 8%. Pour l'enseignement et la formation, c'est 1,6%. Et c'est un chiffre qui est en réduction. On y reviendra tout à l'heure. Et pour toutes les autres causes, c'est 8%. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, alors les chiffres donnés par les Américains sont bien moindres. Sauf que eux n'incluent pas dedans ce qui est fait chez les souris et chez les rats. Or, je vous ai dit que c'est la majeure partie des animaux qui sont utilisés. Parce que pour eux, l'expérimentation animale, c'est même pas la peine de compter les souris et les rats. Ils considèrent que quand on a une souris dans sa cave, on ne lui fait pas un long procès. Et donc, pour eux, la souris, même s'ils considèrent que c'est un être vivant qui mérite dans le laboratoire d'être traité avec humanité, je peux témoigner qu'ils ont des animaleries de très très haut standard au point de vue qualité, mais pour autant, ils ne comptent pas le nombre de souris utilisées. Si on les comptait, en fait, ils en utilisent infiniment plus qu'en Europe. Infiniment plus. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'expérimentation animale effectuée aux États-Unis. Et d'ailleurs, leur éthique à cet égard est différente. Nous, Européens, nous considérons chaque fois que c'est litigieux, qu'il faut éviter d'utiliser l'animal, et on a une réserve forte. Et plusieurs associations ont contribué à développer cette préoccupation. Pour les États-Unis, l'éthique, elle est qu'il n'est pas éthique de ne pas s'assurer de la sécurité chez l'animal avant de le passer chez l'homme. Donc pour eux, c'est une obligation éthique que de tester chez l'animal. Pour nous, c'est une réserve. Pour eux, c'est une obligation. Donc vous voyez que ça explique pourquoi ils utilisent infiniment plus d'animaux et notamment de souris et de rats que nous ne le faisons en Europe. Je voudrais d'ailleurs, dès maintenant, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais attirer l'attention sur le fait que nous avons un devoir de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Parce que rien ne serait pire que de développer cette hypocrisie selon laquelle nous ne faisons pas ici parce qu'on le verrait et ça nous choquerait, mais nous acceptons d'avoir des produits qui ont été testés ailleurs dans des conditions moins rigoureuses et en utilisant des nombres beaucoup plus conservés d'animaux. Parce qu'on est redevable des animaux utilisés dans des expériences aux États-Unis, en Asie ou ailleurs, autant que des animaux utilisés dans le pays. Je voudrais à cet égard simplement vous rappeler des progrès qu'il y a eu dans l'éthique, mais récemment, hein, c'est dans cette génération seulement, pour les humains, on applique cette règle de ne pas avoir une éthique différente dans des pays en voie de développement et dans les pays développés. Je vous rappelle qu'au début de l'épidémie de sida, c'est pas loin, le sida a été découvert en 1981. Donc pour les jeunes, ça paraît peut-être le Moyen-Âge. Mais enfin, pour certains d'entre nous, ça paraît quand même pas si ancien que ça. Et ben, cette épidémie découverte en 1981, des essais thérapeutiques pendant toute la décennie 80 ont été essayés. Eh bien, toute cette décennie 80, venant d'Europe comme d'Amérique, on testait chez les malades africains ce qu'on n'osait pas tester sur le plan éthique en Europe. C'était quand même choquant. Alors depuis, dans les années 90, il y a eu des règles qui ont interdit cela, qui ont dit soit c'est éthiquement acceptable pour l'homme et vous faites vos essais en même temps en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, soit ça n'est pas acceptable chez l'homme et vous ne les faites pas plus là-bas qu'ici, et que ce soit pour les traitements, pour les vaccins et pour tout le reste. Et donc je crois que ça a été un progrès. Ben, il faut appliquer la même chose maintenant pour le reste. Nous sommes redevables de ce qui se passe dans les autres pays également, surtout si on utilise le fruit des recherches et des progrès qui sont effectués. Les enquêtes d'opinion là-dessus. Évidemment, on trouve, comme souvent, un peu ce qu'on cherche. Quand vous faites une enquête d'opinion, dans la population générale, de gens non concernés par les sciences, êtes-vous pour ou contre l'expérimentation animale? Je ne vous surprendrai pas en disant que vous avez une majorité de gens qui sont contre. Ils sont contre. Ensuite, vous posez une autre question. Est-ce que, sachant qu'il y a chaque année quelques milliers de nouveaux médicaments potentiels qui sont développés, dont certains vont pouvoir guérir des maladies qui jusqu'à maintenant étaient incurables, mais parmi ces milliers de produits, quelques centaines vont s'avérer d'une très grande toxicité, parfois mortelle, est-ce que vous préférez que ces nouveaux produits, au fur et à mesure qu'ils arrivent, on les teste sur vous ou sur une souris? Ah ben là, bizarrement, la plupart des gens disent, ah, il vaut mieux que ce soit la souris. Et c'est la même question qui a été posée. Hein. Elle a juste été posée avec un éclairage différent, mais c'est la même. Parce qu'on ne fait pas une expérience animale pour autre chose que pour ça. Hein. C'est la même question, mais suivant la formulation, on attire une réponse différente. Donc je crois que méfions-nous quand telle association ou tel groupe de chercheurs va vous apporter la question et la réponse. Il faut que ce soit fait par des gens qui soient indépendants et il faut connaître la relativité de l'interrogation compte tenu de ce que cela peut éveiller en termes rationnels, mais aussi en termes passionnels chez chacun d'entre nous. Permettez-moi aussi d'ajouter une notion qu'on a découverte en écoutant beaucoup de monde et de façon très intéressante avec Michel Lejeune, c'est qu'il y a quelque chose de différent aujourd'hui de ce qu'il y avait il y a un siècle. Il y a un siècle, nous étions dans un monde marqué sous le sceau du scientisme. On pensait que le progrès scientifique apporterait le bonheur de l'homme. Il fallait aller de l'avant. Tout le monde était pour le progrès. Tout le monde était pour la science. Même si à l'époque, les fruits de la science étaient bien plus minces que maintenant. Mais tout le monde en attendait des... Et personne n'aurait osé entraver le progrès scientifique. C'était inimaginable. Et personne n'aurait osé monter en épingle les effets adverses ou les échecs. Et à l'époque... l'animal n'avait pas la même considération qu'aujourd'hui, que ce soit à la ferme, où quelquefois les animaux ne sont pas traités avec tous les égards qui leur sont dus, ou que ce soit dans la nature. Bon. Et donc, maintenant, nous avons une autre situation. Une situation dans laquelle, même si les sciences ont beaucoup plus montré maintenant leurs bénéfices, les gens en ont davantage peur. Et il y a moins d'aspiration au progrès que dans le passé. Deuxièmement, il y a eu ce que l'on pourrait appeler l'avènement de la génération Bambi, c'est-à-dire la formation à une vision abstraite du monde animal, un monde gentil, où les oursons sont merveilleux. Je vous engage pas à vous retrouver au coin d'un bois avec un ours en face de vous, mais l'ourson, dans un dessin animé ou quand il est en peluche, il est formidable, c'est vrai. Mais quand il est en vrai, c'est pas la même chose. Il y a eu aussi un anthropomorphiste, parce que dans tous ces dessins animés, ils parlent, ces animaux. Ils sont humains, ils éprouvent des sentiments. Ils ont des pleurs, ils ont des rires. Il y a un anthropomorphisme considérable. Et on se met à croire que ces animaux éprouvent exactement la même chose que nous. Donc si un animal souffre, eh bien, on souffre avec. On a tous, d'ailleurs, même à ma génération, on a déjà commencé à ça, moi. Évidemment, j'ai pleuré sur la chèvre de M. Seguin. Évidemment, j'ai pleuré quand Bambi a perdu sa mère et tout ça. C'est effrayant pour un petit garçon de voir toutes ces choses-là. Et on se met à la place de ces animaux. Bon. Mais attention, ça nous perturbe notre vision de la vraie vie, ça. Attention de ne pas prendre nos décisions sur le comportement des espèces animales sur Terre en fonction seulement de cette représentation qui a été cultivée d'une façon un peu artificielle. Dernier point, et puis après, je voudrais simplement lister quelques recommandations que nous avons formulées et qui ont été pour une part reprises par la Commission européenne, même si certaines ont été ajoutées après. Dernier point que je veux évoquer, excusez-moi si je le fais comme ça, mais pour aller plus vite, je ne veux pas créer des pertes de temps avec des liens inutiles. Dernier point à prendre vraiment en ligne de compte, c'est que dans les adversaires que nous respectons, il y en a qui sont éminemment respectables, il y en a d'autres qui le sont moins. Les adversaires qui sont les adversaires à l'utilisation des animaux, très respectables, sont des gens qui ont une grande sensibilité, qui, pour des raisons diverses, considèrent qu'il y a eu des abus, et parfois il y a pu y avoir des abus, et qui souhaitent que l'on prenne davantage d'égards pour les animaux. Et ceux-là, ils sont bons à entendre. Ils permettent de contrebalancer ceux qui, dans l'extrême inverse, diraient « Laissez-nous faire tout ce qu'on veut. De toute façon, nous poursuivons des finalités qui sont nobles et respectables. Donc on a le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est insupportable qu'on soit surveillé dans notre expérimentation animale. » Non, il faut dire non. Vous devez être surveillé. Tout le monde mérite d'être surveillé dès lors qu'il touche un être vivant. Et tout le monde doit respecter des règles. Et tous ceux qui s'écartent de ces règles seront pénalisés. Donc, par contre, il faut savoir que quelquefois dans ces associations, il y a un recrutement de personnes un peu naïves qui ne connaissent pas les vraies nécessités, les vrais besoins, les conditions dans lesquelles se sont fait alimenter d'images très artificielles, fausses, qui mélangent l'assassinat des bébés phoques ou des dauphins au Japon, etc., avec l'expérience humaine, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui laissent entendre qu'il y aurait des docteurs Frankenstein horribles faisant des expérimentations d'aucun sens dans des conditions extrêmement douteuses. Ces gens animés de bonnes intentions, quelquefois alimentés d'un peu de naïveté, mais ayant une utilité importante dans notre société, ces gens-là, il faut impérativement les inclure dans un dialogue, les amener à visiter les lieux, à entreprendre des démarches. Et là, on se rend compte que leur objectif, pour la plupart des associations, on les a presque toutes reçues, n'est pas de dire du jour au lendemain, on arrête. Ils disent, on veut aller vers un objectif où il n'y aura plus d'expérimentation animale. Mais on a conscience que ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc ce qu'on veut, c'est vous aider, c'est vous encourager, c'est exiger qu'il y ait des moyens plus importants pour développer plus vite des méthodes alternatives, pour qu'il y ait des règles qui contrôlent tout ça et pour que petit à petit, on diminue effectivement le recours à l'animal. Mais ils sont conscients du fait que ça ne peut pas se faire par un coup de baguette magique ni d'une façon brutale, parce que ce serait des inconvénients majeurs. Mais à côté de ça, et de façon totalement différente, il y a une autre catégorie de personnes qu'il ne faut pas considérer comme méritant le même respect, qui sont des terroristes. Ce sont des terroristes purs et durs qui ne s'intéressent pas du tout à la cause animale, qui ne s'intéressent ni à la vie humaine, ni à la vie des animaux. Ce sont généralement des gens qui ont été enrôlés dans des services de terrorisme international, quelquefois sous l'égide des Tchétchènes, des anciens de la Yougoslavie, des grands mercenaires internationaux, très entraînés à l'utilisation des armes, ayant déjà tous eu du sang humain sur les mains, et qui se sont procurés des quantités d'explosifs et d'armes de façon importante. Et simplement, ils se jettent sur cette cause, parce qu'ils savent que sur cette cause-là, on va pouvoir faire croire que la cause a une certaine noblesse, et ils vont de temps en temps faire exploser un laboratoire ici, une animalerie là, la maison d'un directeur de laboratoire, la famille d'un autre, ils blessent des gens et ils se comportent en terroristes. Et cela ne mérite pas du tout aucun respect, mais au contraire, ils méritent que la loi s'applique contre eux, comme contre tous les terrorismes. Il ne faut pas du tout les assimiler avec les courants de pensée de progression vers une humanité toujours plus raffinée concernant les animaux et les humains. Alors, les recommandations, je terminerai pour après écouter vos questions. Les recommandations qu'on a formulées, je ne vais pas toutes vous les citer. Si un jour ça vous intéresse, ce bouquin pourra vous être adressé. Je vais juste évoquer quelques points importants. Il faut bien entendu progresser. Et ces progrès, c'est continuer à améliorer les conditions d'hébergement, même si ces conditions sont bonnes. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elles soient bonnes partout, dans tous les laboratoires, privés, publics, en France et dans les pays européens qui sont moins favorisés ou ayant moins d'ancienneté dans ces questions-là, pour que partout où l'Europe peut exercer un contrôle, on ait des conditions d'hébergement dont on puisse être fier. Il faut qu'il y ait... Alors ça suppose des moyens, bien sûr, parce que c'est facile de dire qu'il faut que toutes les animaleries soient cossées que ça, sauf qu'après, il faut que les États en question donnent de l'argent pour que les animaleries publiques se mettent à conformité, et il faut que les responsables des laboratoires privés investissent pour être au niveau. Deuxièmement, il faut développer les méthodes alternatives. Là encore, c'est pareil, il faut de l'argent. Il faut de l'argent et de la volonté. Il faut qu'il y ait une volonté pour que quand il y a une méthode alternative qui est proposée par un chercheur, il ne s'écoule pas 10 ans avant qu'on puisse la considérer véritablement comme une alternative, comme un moyen de substitution à des expérimentations. Parce que pour l'instant, est-ce que vous connaissez des gens qui utilisent des animaux pour le plaisir? Moi, je n'en connais aucun. Après avoir entendu tout ça, je ne connais personne. Je connais que des gens qui y sont obligés, soit par leur nécessité de leur recherche, soit parce qu'il y a une réglementation qui dit tel nouveau médicament doit être testé dans tel système avant d'être accepté et qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché. Et donc, ils appliquent la règle. Si on ne change pas les règles, les lois dans chaque pays, on continuera éternellement à avoir une utilisation quelquefois abusive, comme ça a été le cas en cosmétologie, de certains animaux. Alors donc, il faut qu'il y ait une incitation forte au développement des méthodes alternatives, à leur reconnaissance officielle par les pouvoirs publics dans les différents pays européens. il faut qu'il y ait une meilleure connaissance sur la douleur. Je ne sais pas si vous savez que la douleur humaine, elle est connue depuis un tout petit nombre de décennies, qu'on en tient compte véritablement comme il faut. Je parle devant quelqu'un qui est plus compétent que moi, mais depuis un petit nombre de décennies, de façon efficace. Et on peut encore progresser. Il y a encore des cas où on n'est pas encore parfaitement performé. En tout cas, c'est un phénomène nouveau, la prise en charge de douleur. Pendant longtemps, on a vécu sous ce dogme que la douleur avait une valeur rédemptrice et que la douleur, que ce soit en couche ou ailleurs, il fallait la respecter. Et les médecins aussi disaient ben, la douleur, c'est un signal d'alerte. Si on cache la douleur, on ne saura pas. Si le malade fait une complication. Donc on ne soignait pas, on ne prévenait pas suffisamment les douleurs chez l'humain, jusqu'à une date toute récente. Maintenant, ça a beaucoup progressé. Il faut voir que pour l'animal, on est encore beaucoup plus loin. Et on ne sait pas vraiment ce que et comment éprouve la douleur la plupart des espèces animales. On a des connaissances qui sont extrêmement ténues et qui méritent d'être investiguées parce que, évidemment, notre objectif principal, prioritaire, est de faire en sorte que les animaux en expérience n'éprouvent aucune douleur. Un point qu'on a pu aussi identifier, c'est la nécessité de mettre en place des systèmes pour que soient transmis largement tous les résultats des expériences, y compris et notamment les résultats négatifs. Parce que quand vous êtes à la tête d'un laboratoire public, vous faites une expérience, ça ne donne rien de positif. Vous n'allez pas la publier parce qu'il n'y aura pas un journal qui va la publier. Hein, ça n'apporte rien. Bon. Donc vous l'oubliez et puis personne d'autre ne le sait. Si vous êtes dans un laboratoire privé, vous testez quelque chose, vous n'allez surtout pas le donner aux autres, à vos concurrents, parce que vous y avez passé 6 mois, vous avez dépensé de l'argent, et vous n'allez pas donner ça facilement à vos concurrents. Donc dans un cas comme dans l'autre, chaque fois que quelqu'un va se poser la même question, il va être obligé de refaire des expériences en utilisant à nouveau des animaux, alors que la connaissance, elle existe, mais elle est confidentielle. Elle n'est pas transmise, elle n'est pas répandue. Et donc nous devons exiger de mettre en place des systèmes où les résultats des expériences, même de celles qui sont négatives, peuvent être disponibles à ceux qui veulent s'intéresser au sujet pour ne pas avoir à refaire éternellement des expériences et utiliser des animaux en nombre excessif et de façon inutile. Il faut, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, réduire le nombre d'animaux dans chaque expérience en développant beaucoup plus l'imagerie. Et dans la plupart des grands laboratoires, maintenant, il y a des imageries spécifiques pour les petits animaux de laboratoire qui permettent en étudiant bien ces animaux, de tirer beaucoup plus d'informations sans avoir à utiliser des nombres excessifs. Éviter les sacrifices quand ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est une chose qui est remarquable. C'est que maintenant, il y a des animaux, et je trouve que cette initiative mérite d'être plus que saluée, des animaux qui ont pu être l'objet d'une expérience, et puis il n'y avait pas besoin de sacrifice pour cette expérience. Ils ont bien fini leur expérience. Eh bien, ces animaux, ils peuvent avoir droit à une fin de vie agréable, eh bien, y compris pour les chiens qui, maintenant, peuvent être l'objet de propositions pour des gens qui adoptent des chiens qui ont été en expérience. Et ceci mérite d'être salué parce que ça donne un regard tout à fait positif vis-à-vis de ces animaux. Et moi, je salue tous ceux qui ont pris cette initiative et tous ceux qui y contribuent et tous ceux qui adoptent ces animaux, chats, chiens et autres, qui ont eu une opération... quelque chose, etc., et qui, après, ont droit à une vie heureuse. Je crois que c'est un point tout à fait important sur la représentation qu'on peut avoir de la part de l'expérimentation dans une vie d'un animal de laboratoire. Développer, amplifier, améliorer tout ce qui est regard éthique, et notamment par les comités d'éthique, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient nationaux. Une implication de plus en plus forte des vétérinaires. Bien souvent, les expériences sont faites par des gens qui n'ont pas eu une formation vétérinaire. Et quelquefois, ils ne choisissent pas l'espèce animale la plus appropriée, et puis ils ne savent pas vraiment se comporter de la meilleure façon avec l'animal. Donc, que ce soit des médecins, que ce soit des scientifiques, quand ils sont confrontés avec des animaux au laboratoire, il faut qu'il y ait l'aide d'un vétérinaire qui peut les guider pour que ça se passe du mieux possible pour l'animal. La qualité des résultats, d'ailleurs, en dépend, puisque une expérience qui n'est pas bien conduite donnera des résultats qui ne sont pas fiables. Nous avons aussi proposé de créer, d'une part, une chaire et, d'autre part, un prix pour encourager le développement des méthodes alternatives. Et donc, dans le futur, eh bien, il y aura de plus en plus de gens qui vont faire de la recherche pour des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, que ce soit des tests sur des cellules isolées ou en culture ou d'autres choses. En tout cas, toutes ces incitations qui peuvent être faites ainsi contribueront à remplacer demain davantage l'expérimentation animale par de plus en plus de méthodes alternatives. Il importe évidemment que la formation de tous les personnels soit faite, de l'étudiant au technicien, à l'ingénieur, au chercheur, pour qu'il y ait une formation, bien entendu, technique, mais aussi une formation sur l'éthique et surtout sur les enjeux partagés. Il faut que chacun, dans une équipe, comprennent que nous nous acheminons vers des temps futurs où l'expérimentation animale sera en quantité réduite, sera réservée à des finalités spéciales et où il y a non seulement des conditions à adopter, mais aussi une ligne de conduite, un objectif que nous devons tous partager. Bien évidemment, on diminue maintenant, c'est déjà fait en grande partie, l'utilisation pour tout ce qui est éducation, apprentissage, puisqu'on sait bien que si on filme une expérience et qu'on la projette des milliers de fois, ça sera un seul animal qui aura été utilisé, plutôt que de donner un animal à chaque étudiant qui va massacrer un petit peu son animal parce qu'il ne le fera pas d'une façon optimale. Et donc, il vaut beaucoup mieux utiliser les moyens modernes sans avoir à utiliser des animaux inutilement. Alors, il reste des questions. Il reste des questions qui méritent débat. L'utilisation des primates sous humains. Faut-il ou ne faut-il pas utiliser les singes ? Parce qu'évidemment, on se sent plus proche d'eux. Hein. On partage, je crois, 98% de patrimoine génétique avec certains singes. Donc, évidemment, on a une sensibilité. Par ailleurs, peut-on accepter de le faire avec des singes capturés ? Ou est-ce qu'on peut le faire qu'après la deuxième génération de reproduction dans les laboratoires ? Qui sont donc des singes de laboratoire et qui ne sont pas des... Ça a des conséquences et ça, c'est beaucoup débattu. Il y a des points de vue très différents. Il ne faut pas ignorer qu'il y a des pays comme la Chine qui utilisent des grands nombres de singes pour l'expérience et qui proposent à tous les laboratoires du monde d'aller faire leurs travaux chez eux à des prix dérisoires et puis qui, après, en définitive, développent sur le plan économique tout les nouveaux produits qui en dérivent, puisque une fois que le laboratoire s'est délocalisé pour faire ses expériences sur le singe, les autres essais sont faits dans le même pays asiatique, et puis après même l'expérimentation humaine se fait là-bas, et l'économie se développe là-bas. Donc il faut pas être ignorant de tous ces phénomènes. Faut-il ou ne faut-il pas appliquer le même niveau de protection pour les formes larvaires et les formes embryonnaires ? Certains le proposaient, ou pour les invertébrés. Est-ce que c'est aller trop loin ou pas trop loin que de considérer qu'un embryon de souris doit avoir la même protection qu'une souris déjà née ? Faut-il interdire totalement toute utilisation d'animaux pour tout ce qui concerne la cosmétologie, en considérant que ce n'est pas une fin importante pour la santé, que c'est quelque chose qui est plus, on va dire... superficielle, d'importance moins considérable. Enfin, il peut aussi y avoir des effets néfastes de certains produits utilisés en cosmétologie. Et puis, par ailleurs, surtout, il y a encore des règles pour lesquelles il n'y a pas de méthode alternative qui existe. Donc, théoriquement, en 2013, il devait y avoir interdiction dans toute l'Europe de toute utilisation d'animaux pour la cosmétologie. En vérité, ça ne sera pas possible. Il devrait y avoir une nouvelle recommandation qui devra donner quelques années de plus parce qu'il n'y a pas la possibilité de le faire tout de suite. Même si on a pu réduire de 95 ou 99%. Alors, vous avez des laboratoires, j'en citerai aucun, qui vous disent « Chez nous, rien d'effet chez l'animal ». Oui, ils vous disent ça, mais ce qu'ils vous oublient de vous dire, c'est que les produits avant ont été testés par un autre sur l'animal parce qu'ils n'auraient pas le droit de le faire sinon. Donc, évidemment, chez eux, ils ne le font pas, mais ils le font faire par d'autres. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore en mesure de pouvoir à 100% l'exclure, même si c'est un objectif qui est à court terme, hein, puisque si c'est reporté de 2-3 ans, ça sera quand même dans cette décennie que ça se terminera totalement. Je vous ai évoqué les problèmes économiques. Hein, et si on veut garder une industrie du médicament, si on veut continuer à contribuer au progrès scientifique, on ne peut pas aujourd'hui s'en passer à 100%, quels que soient les efforts qu'on peut développer pour réduire. Et donc je termine en indiquant que derrière tout ça, il y a évidemment beaucoup de nécessité de dialogue. Je crois que ce dont a souffert ce domaine pendant très longtemps, ça a été du silence, je dirais peut-être de la tendance des chercheurs à vivre dans une tour d'ivoire et à ne pas assez expliquer. Donc ça a nourri des fantasmes, reconnaissons-le. Ces fantasmes sont développés. Alors ensuite, certains chercheurs ont pris conscience de ça, ils ont ouvert leurs portes, ils ont fait des journées portes ouvertes. Et manque de peau, comme il y avait des gens qui étaient avec une animosité contre, ils ont été les premiers cibles de ceux qui ont développé des actions commando contre des laboratoires. Et donc, il n'est pas aisé de développer ce dialogue actuellement parce que nous avons tout ce passif. Il n'empêche que je crois qu'il faut vraiment s'écarter de ces deux solutions, de ces deux propositions un peu trop radicalisées, d'être tout pour ou tout contre. Il faut vraiment chercher cette voie d'évolution moyenne et il faut inciter au dialogue pour que dans les générations futures, ça apparaisse beaucoup moins obscur, beaucoup plus acceptable et compréhensible, beaucoup plus rassurant, parce que quand on connaît les choses, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout horribles. Et donc ce dialogue avec les associations, cette éducation de la population dans son entier, cette éducation qui doit se faire d'ailleurs dès le stade scolaire pour les jeunes, me paraît d'une très grande importance. Et puis, alors, évidemment, je le répète, il ne faut pas appliquer par contre d'angélisme vis-à-vis de ceux qui sont des véritables groupes de terrorisme, qui ont déjà fait des victimes humaines et animales. Moi, je vais vous citer dans la région lyonnaise deux exemples. L'un qui est dans un laboratoire qui fabrique, qui produit des animaux pour laboratoire, le laboratoire IFA Credo, où ils ont mis des explosifs de grande puissance. Ils ont complètement soufflé tout un bâtiment qui a complètement explosé, hein, avec qui avait pourtant des murs énormes. Heureusement, c'était la nuit, donc il n'y a pas eu d'humains blessés. Mais évidemment, les animaux qui étaient dedans, ils ont explosé avec. Hein, donc leur souci de protection de la vie animale, il est... Et puis un autre qui était dans une faculté de Lyon, où les gens sont venus ouvrir toutes les cages. Alors, toutes les cages, singes, souris, lapins, chiens, etc. Eh bien, le résultat, c'était un carnage. Parce que les chiens qui sont dans ces cages ne sont pas les petits toutous gentillets qui vous lèchent les pantoufles. Hein. Ce sont des chiens qui n'ont pas toujours eu la même éducation. Donc les chiens ont bouffé les lapins. Les souris n'ont pas fait 20 mètres avant de se faire attraper par un chat dans la rue. Et les singes, tout a été foutu en l'air. Ils se sont mordus entre eux. Les expériences ont été foutues en l'air. Les singes se sont blessés pour plusieurs d'entre eux à mort en se battant entre eux, etc. Donc ça a été un carnage effrayant quand les gens ont découvert ça, parce qu'ils l'ont fait dans un week-end. Donc les gens ont découvert ça plusieurs heures après. C'était un carnage. Ils en pleuraient quand ils ont découvert ce qui s'était passé, les chercheurs responsables. Donc c'est vrai que ces gens-là, quand ils sont identifiés, ils ne méritent pas d'être traités avec la même indulgence que ceux qui poursuivent des causes humanitaires et qui demandent à ce que des règles des règles supplémentaires soient imposées pour induire un respect plus grand de l'animal dans les laboratoires. Je termine, c'est mon dernier mot, en disant que s'il y a actuellement beaucoup de préoccupations sur l'animal d'expérience, il faudrait aussi qu'il y ait des préoccupations équivalentes pour les animaux en dehors de cela, que ce soit dans tous les élevages, que ce soit dans la vie sauvage, que ce soit pour les chasseurs, que ce soit pour les animaux domestiques, où on sait bien que malencontreusement, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Je n'ai pas besoin de vous décrire, la SPR est là pour faire des rapports, l'état dans lequel se retrouvent parfois l'été certains des animaux domestiques et d'autres. Donc je partage toutes ces sensibilités. Je pense qu'il est très bien que les laboratoires soient les premiers à montrer l'exemple, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur l'ensemble du domaine. Voilà, merci beaucoup.
Bien, je pense que nous allons avoir une discussion importante après cette présentation et je vous remercie de la qualité de votre exposé. Alors, en avant, si vous avez des questions, je sais qu'il est toujours difficile d'ouvrir le feu, mais Georges... Ah, un étudiant d'abord. Merci.
Très bien, bonsoir. Donc, dans votre exposé, vous parlez de remplacer les modèles animaux, et notamment par le biais de modélisations qui sont en réalité basées sur l'état de l'avancée de la connaissance à ce jour. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'à terme, se baser trop sur des modélisations de ce type amène à finalement restreindre un maximum cette avancée du savoir pur, de ce savoir fondamental qui permet par la suite d'accélérer la découverte de nouveaux traitements ou traiter des maladies incurables, comme vous le dites aussi.
Oui, donc ça va de pair. Ce que vous indiquez, c'est que imaginez qu'à un avenir raisonnable, ces modélisations se substituent totalement à l'expérimentation animale, c'est évidemment difficile et ça pourrait avoir des limitations considérables au progrès. Par contre, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce que sont capables de faire actuellement les mathématiciens, les informaticiens, etc., dans leur capacité d'intégrer un nombre de données assez considérable. Et à partir du moment où on ajoute tout cela, on peut, mieux que dans le passé, prévoir. Si vous prévoyez beaucoup de choses, je ne dis pas que vous allez forcément empêcher que la phase ultime, il y ait quelques animaux chez qui vous testiez cela, mais vous pouvez, dans toutes les phases précédentes, réduire beaucoup, beaucoup le recours à l'animal in vivo. Et donc, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de se dire, déjà, la meilleure connaissance du rapport entre les composants moléculaires et les effets, hein. C'est déjà quelque chose qui progresse à grands pas. Parce que moi, je me souviens d'un moment où on en rêvait, mais il n'y avait aucune donnée sur laquelle on était chaque fois surpris par des nouvelles molécules sur lesquelles on n'anticipait pas du tout ce que ça va être. Maintenant, c'est autre chose. Je veux dire, plus précisément, dans ce passé récent que j'évoquais, on avait une molécule dont on avait trouvé, qu'elle soit extractive ou produit de la synthèse, on avait trouvé qu'elle avait un effet par le plus pur des hasards, après avoir été screenée sur 10 000 choses. Bon. Et après, on se disait, eh ben, on rajoute un radical méthyl ici, un atome de ceci là, etc. Et puis on voit si ça fait plus, moins. Bon. Puis voilà, on bricolait comme ça. Mais par contre, la prédiction d'une molécule à construire en fonction d'un objectif recherché, c'était un rêve. Maintenant, ce n'est plus un rêve. Maintenant, c'est devenu une science. Donc je crois qu'on peut, à partir d'une molécule dont on sait quels peuvent être les bénéfices et les inconvénients, à partir maintenant d'effets dont on sait comment ils se manifestent au niveau moléculaire et au niveau cellulaire, et on peut intégrer ça dans certains modèles, on peut arriver à réduire les étapes initiales d'utilisation de l'animal. Les étapes terminales, non, pas encore, bien évidemment, parce que le moment où ça passe dans l'organisme entier, il y a toujours un moment où il y a un grand pas à franchir, et qui est l'organisme entier.
Oui, c'est-à-dire que là, vous basez bien votre propos sur ça, c'est permis à partir de ce que l'on sait. Vous avez parlé tout à l'heure de la douleur chez l'animal.
Oui, je comprends. Vous avez raison. C'est bien une chose que j'avais fait ajouter là-dedans aussi. Vous avez raison d'évoquer le domaine à défricher complètement. Il est évident qu'il ne faut pas se considérer comme ayant tous les champs d'investigation déjà ouverts et qu'il nous suffise de continuer à progresser dans ces champs. Il est évident qu'il y a des champs qui sont pour l'instant totalement, totalement vierges et que vous ou d'autres, demain, vont identifier. Et ceci, évidemment, ça suppose des observations qui ne peuvent pas, celles-là, être facilement modélisables et qui ne peuvent pas être abstraites totalement et qui doivent, à un moment ou à un autre, être l'objet d'abord d'une bonne observation, d'une bonne proposition d'hypothèse, et puis après de la bonne vieille méthode de médecine expérimentale de Claude Bernard pour avancer. Donc je suis d'accord avec vous, pour les champs tout nouveaux, c'est indispensable de se garder, probablement pendant encore un très, très, très grand nombre de générations, cette possibilité. Ça, j'en suis complètement conscient.
Une remarque et une question. Ma remarque va tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. Bien sûr, je pense comme vous qu'on va être amené à supprimer 99% des expériences sur la cosmétologie, dont certaines ont été absolument abominables. Et je dis 99% parce que ce qui vient d'être dit, le jour où un chimiste fabriquera une molécule complètement nouvelle, je dis entièrement nouvelle, il fera bien quand même cette toxicité.
Bien sûr.
Alors une question maintenant.
Et c'est ça qui est embêtant, parce qu'on prend des règles, et ces règles s'appliquent pour la majorité des cas, Mais qu'est-ce qu'on fait pour les cas où ça ne s'applique pas ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons qu'on se reçoit après le moment où ça s'imposera dans toute l'Europe. Ben, les types, ils iront le faire en Chine.
Hein. Je crois qu'il faut se réserver cette petite fraction quand c'est quelque chose de vraiment nouveau. Je crois que c'est la question du défrichage de nouvelles pistes.
Mais c'est là où c'est difficile de convaincre les...
Si on arrive quand même à supprimer le test de l'œil du lapin, etc., on aura fait un grand pas en avant. J'ai une question maintenant un peu plus personnelle. Maintenant que vous avez fait superbe rapport avec le jeune qui a permis d'améliorer cette directive européenne, quels sont vos projets ?
Eh bien, déjà, de mettre en concrétisation certaines de ces propositions. Moi, je suis depuis destinataire d'un ensemble de courriers, par exemple de chercheurs qui ont développé des tests alternatifs et qui n'arrivent pas à les faire valider. Et ça, je me dis, mais on marche sur la tête. D'un côté, on dit il faut, et de l'autre, il y a des gens qui ont fait des découvertes authentiques et qui m'apportent des résultats scientifiques assez convaincants d'après les publications. Mais évidemment, comme toute donnée scientifique, ça n'est valable que quand c'est confirmé par un autre laboratoire. Donc il faut qu'il y ait un autre laboratoire qui se coltine la validation. Hein, et pour l'instant, ça reste dans cet état-là. Donc moi, je crois que ça, c'est quelque chose où il faut qu'on crée des structures plus performantes pour accélérer et amplifier la validation de ces tests. Il faut l'encourager ensuite par ces petites méthodes, hein, les prix, les chairs, etc. Mais il faut vraiment qu'on s'équipe, qu'on s'organise pour ça. Et puis, après, moi, je pense qu'il va falloir une forme de suivi un petit peu en continu. Donc, je ne sais pas sous quelle forme elle devra se mettre en place. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on ait un rendez-vous, si vous voulez, une fois tous les 20 ans, et puis dans l'intervalle. Je pense que dans un domaine dans lequel... On a la nécessité de changer un peu le regard de la société sur ces questions-là. Donc ça veut dire qu'il faut entretenir la préoccupation, la discussion, le dialogue, l'ouverture. Et ça, pour l'instant, c'est pas prévu parce que nos ministères ne s'y inquiètent qu'au moment où il y a un coup près, quoi. Et le reste du temps, ça sort de l'agenda des politiques en général. C'est un peu comme les lois de bioéthique. Tous les 5 ans, on remet sur le tapis. Puis dans l'intervalle, il ne se passe rien. Ben non, il peut y avoir quelque chose qui nous amène à changer dans l'intervalle. Une découverte. Vous savez, quand Bob Edwards a fait les premières fécondations in vitro, ça serait maintenant, il ne pourrait pas. Hein. Donc on ne pourrait pas recourir à la fécondation in vitro. Parce que, simplement, il a utilisé le no man's land, l'absence de texte à l'époque. Bon. Maintenant qu'il y a des textes, ça arriverait dans un champ où ça serait interdit. Alors, ça veut dire qu'on attendrait la prochaine révision, dans 5 ans, dans 10 ans, et puis on étudierait ça. Ben, un chercheur, il ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, je ne connais pas un chercheur qui dise « Ah bon, ben, je vais attendre que les politiques, dans 10 ans, me disent si j'ai le droit ou pas de continuer. » Soit il dit « Je peux », et il fonce, soit il dit « Ben, je vais voir ailleurs. Hein. » Mais donc, ça n'est pas respectueux de la vie des scientifiques, tout ça. Donc il faut inventer quelque chose de différent.
Je continue tout à fait sur la même thématique, en pensant au fait qu'on n'est pas très bon en France dans ce domaine de la législation, puisque vous avez cité le cas des lois de bioéthique, vous avez parlé de l'intervalle de 5 ans. Or, on a loupé le rendez-vous de 1999, puisque la première loi est de 1994, on devait la réviser en 1999. Cohabitation oblige, ça ne s'est pas produit. Donc la date suivante, c'était 2004. Là, effectivement, on a eu une loi. 5 ans après, c'était 2009. On a loupé le rendez-vous et on a, pour le moment, 2010. Et en fait, c'est parce que derrière, on a une date butoir qui est février 2011.
Oui, mais on va pas être capable de la respecter.
Alors, voilà.
Je ne sais pas ce qui va se passer, là.
Je pense qu'on va peut-être y arriver. Vous devriez en discuter, non ? Il semblerait.
Moi, je pense pas qu'elle pourra passer avant février 2011.
Alors, donc, il y a ce problème-là.
Donc, ça veut dire que les gens qui sont sur les cellules souches, on ne sait pas ce qu'ils vont faire.
Voilà. Sans compter qu'on dépend non seulement de la loi, mais des décrets d'application. Or, pour la loi de 2004, certains décrets ne sont pas encore publiés. Donc, c'est assez dramatique. Oui. Hein, vous êtes d'accord là-dessus ?
Complètement.
Alors, donc, dans ce domaine-là...
Bon, imaginons même qu'on arrive à accélérer le calendrier... Et que ça passe en février, il n'y aura pas les décrets d'application. Hein.
Ah non, non, non. Et alors là, on est dans un cas où on est sur une directive européenne 2013. Ça veut dire qu'il faut traduire après dans le droit français et aller après vers les décrets d'application. Donc moi, je les vois en 2015, 2016, par là, pas avant. Donc c'est assez dramatique.
Tout à fait. Il n'y a pas la même dynamique, le même rythme. Et ça, c'est un vrai problème. Sur les besoins des scientifiques, des progrès, des thérapeutes, et puis sur l'évolution des textes. Et ça, ça n'avance pas à la même vitesse. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui avait d'ailleurs déjà été identifié par Jean Bernard, le premier président du comité national d'éthique, qui avait dit qu'il ne faut surtout pas que la loi se mette là-dedans, parce que la loi, c'est trop lent, parce que c'est trop figé, parce que ce n'est pas évolutif, alors que nos évolutions vont beaucoup plus vite que ça. Et donc lui, il voulait travailler, mais évidemment, c'était un vœu pieux, sur le consensus. Bon, je vous mets au défi de mettre tout le monde d'accord sur les mères porteuses, sur la procréation dans les couples homosexuels, etc., etc. Donc on n'arrivera pas à avoir un consensus de toute la communauté nationale. Il faudra bien, à un moment ou un autre, que ce soit une majorité ou une autre qui se prononce pour un texte ou un autre. Donc oui, il faudra... Mais... puis aussi, si on permet des choses, ça veut dire que en dehors de ça, ou si on en interdit d'autres, il faut qu'il y ait des sanctions. Sinon c'est artificiel. Or, il faut bien qu'il y ait une loi pour ça, hein, pour définir les conditions de sanctions. Donc c'est vrai que si, même si je trouve qu'on recourt trop souvent aux interdits dans notre pays, mais il y aura quand même toujours des choses qui devront être interdites. Et ces choses-là, il faut que ça soit défini dans la loi. Mais malheureusement, la loi, elle évolue lentement, les mentalités évoluent lentement, et malheureusement, je dois dire que les mentalités des politiques évoluent encore plus lentement que les mentalités de la population générale. Mais si, et ça se comprend, ça s'explique. Ils sont souvent en retard parce qu'ils croient que leurs concitoyens ne sont pas mûrs pour cela. Et donc, par frilosité, ils disent « Oh, ben, on ne va pas être en avant ». Mais ils sont souvent... Si vous faites des enquêtes d'opinion, vous verrez qu'il y a plus de gens qui sont pour certains progrès que vous n'en rencontrez parmi les politiques. Donc vous avez raison, on a un vrai problème là, et plus en pays latin qu'en pays anglo-saxon.
Oui, et donc j'avais aussi à rajouter le fait qu'avec Alain Claës, on a beaucoup parlé de ces problèmes-là, débattu y compris ici. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de l'excuser, parce qu'il était en réunion publique ce soir, il n'a pas pu venir. Il y avait une idée qui pouvait être exploitée, mais qui ne l'a pas été, c'était un concept de loi cadre, avec des révisions périodiques relativement souples. Alors, je ne sais pas si c'était ce que tu voulais évoquer.
Oui, c'est bien ça. Finalement, deux lois sur des grands principes, puis un peu comme en bioéthique, avec finalement une agence
qui puisse faire évoluer dans l'intervalle.
Pour avoir davantage de réactivité. Voilà, puisque...
Tout à fait. Moi, je crois que ça pourrait être une formule beaucoup plus souple et plus adaptée à ce domaine.
Alors, l'autre aspect qui personnellement me préoccupe, j'ai été au contact de l'industrie pharmaceutique, y compris pour y avoir travaillé pendant quelques temps, qui est d'une part le fait qu'on est face à une situation mondialisée, vous en avez évoqué certains aspects, mais dans le développement d'un médicament, on a besoin d'autorisation pays par pays, enfin c'est des secteurs géographiques, et donc là on va tomber dans des problèmes très compliqués si les lois ne sont pas homogènes. Déjà, c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Et en particulier, j'ai trouvé que l'industrie pharmaceutique était très très frileuse pour faire évoluer le principe des tests. Aujourd'hui, vous avez dit que la DL50 avait disparu. J'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes. C'est la dose létale 50, c'est-à-dire sur 100 animaux.
50 meurent.
50. Donc c'est la dose qui provoque le décès de 50 animaux. Et ça, c'est un des premiers tests qui est demandé avec un nouveau produit. Et on définit cette dose comme étant une dose limite. Et après, on va partir de cette dose limite pour
diminuer les doses.
Et puis après, on va s'en servir pour des essais sur les animaux, puis après pour les essais sur l'homme. Donc là, on a une méthodologie qui est en plus très critiquable, parce qu'on vous impose, par exemple, des essais sur deux espèces d'animaux, souvent, dans les phases précliniques.
La toxicologie consomme beaucoup d'animaux.
Et
on conçoit que même, ce n'est pas tranquille que de ne pas savoir la marge qu'il y a entre la dose thérapeutique et la dose toxique. Donc c'est vrai que si on a un nouveau médicament, bon, on l'utilise à telle dose, on voit que c'est efficace, on ne voit pas trop d'effets secondaires. On est quand même plus tranquille si on sait que la dose qui est capable d'induire une certaine mortalité chez l'animal, elle est plusieurs logarithmes au-dessus, quoi, hein. Alors que si c'est simplement le triple, on se dit, ben, le type, il se trompe, il prend 3 comprimés au lieu d'un, tlac, il est dans la dose toxique, quoi, hein. Et on sait que ça se passe, hein, les gens qui prennent mal leur traitement. Donc, évidemment, on n'est pas facilement capable de se passer de ces données-là. Donc, c'est vrai. Alors, maintenant, l'industrie pharmaceutique aussi a tendance à pas trop vouloir évoluer parce qu'elle aime bien être en terrain solide. Hein. Ils n'aiment pas prendre des risques. Ils ont pas bon. Et puis enfin, pour eux, le développement, je ne sais plus quel est les coûts, mais enfin le prix moyen de développement d'un nouveau médicament, c'est considérable.
Hein. Un milliard d'euros.
C'est 1 milliard d'euros, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. C'était avant, à l'époque où c'était les francs, c'était 5 000. C'était...
Oui, ça augmente. C'est 1 milliard d'euros.
Voilà, 5, voilà, voilà. Donc maintenant, ça fait 1 milliard d'euros. Eh bien, évidemment, vous comprenez qu'ils n'ont pas tellement envie que de devoir le retirer après. Et puis même quand il faut le retirer, ils ne le font pas assez vite. Hein, CF, le médiator. Et donc c'est clair que ça n'est pas toujours facile que de prédire les effets adverses. Et on n'est pas le meilleur pays au monde pour l'identifier rapidement et prendre les mesures appropriées au bon moment. Ça, c'est clair. Donc il nous faut ne pas relâcher tout ce qui peut réduire les risques. Parce que... et les risques, ça suppose... Bon, prenons... Les gens disent... Bon, il y a dans les essais, hein, vous connaissez la toxicologie, il y a les effets cancérigènes, il y a les effets tératogènes. Bon. Imaginez qu'on revienne en disant, oh, bon, les effets tératogènes, maintenant, on sait à peu près... Ben non, on aurait à nouveau une catastrophe comme la thalidomide, hein, parce que la thalidomide, si ça avait été testé correctement sur plusieurs animaux gestants, on aurait su. Donc il est clair qu'on ne peut pas... Et il faut le faire sur plusieurs espèces, parce que certains animaux font apparaître certains effets, et d'autres. Donc on peut pas le faire que sur une seule espèce animale. Donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'aube de la suppression de tout ça, y compris pour l'industrie pharmaceutique. Et au total, quand je disais tout à l'heure la médecine humaine et animale, une grande partie, c'est dans les laboratoires pharmaceutiques.
Quelles sont les réglementations en termes internationaux sur ces problèmes de doses létales à tester pour les médicaments? Pour les boîtes pharmaceutiques, c'est important qu'ils puissent mettre sur le marché au niveau international. Donc s'il y a une exigence autre que celle qui est celle en France, c'est les plus strictes, du genre il faut les doses létales 50, on ne peut pas leur dire ici en France, vous ne les faites pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas leur dire en France, vous ne faites pas vos tests de doses létales 50, c'est exigé par exemple aux États-Unis ou ailleurs.
Ça, si on peut. On ne peut pas dans le même pays mettre une interdiction et une obligation pour la même chose. Par contre, d'un pays à un autre, si, à ce moment-là, ça les oblige, et c'est souvent le cas d'ailleurs, de faire des expériences complémentaires dans d'autres pays. De même que d'ailleurs, il faut qu'ils fassent des groupes de malades supplémentaires. Ça paraît un peu absurde, mais pour pouvoir développer son médicament dans plusieurs pays, il faut qu'il y ait des malades américains qui aient été soignés, il faut qu'il y ait des malades européens. Alors, par contre, heureusement, l'Europe s'est regroupée. C'est-à-dire que les règles dans les pays européens se sont homogénéisées. Et donc, bien souvent, maintenant, les laboratoires demandent l'autorisation sur l'ensemble du marché européen. Mais ils peuvent, avec des conditions un peu plus restrictives, demander et obtenir l'autorisation pour un seul pays européen. Maintenant, il est vrai que ce que vous dites est tout à fait juste. De temps en temps, pour un nouveau marché, ça les oblige à faire des expériences additionnelles qui ne sont pas prévues dans un endroit où c'est pourtant permis. Et je dirais, méfions-nous, autant c'est très bien d'homogénéiser en Europe, en Amérique, et puis de faire évoluer les choses avec davantage d'exigences peut-être dans les pays asiatiques. Mais si on voulait tout homogénéiser au niveau mondial, on risquerait de laisser passer des choses peut-être. Vous savez, on se rend compte que, suivant les hasards, on identifie parfois d'abord aux États-Unis, parfois d'abord en Europe, un effet adverse après... Parce qu'il y a plus d'exigences et une meilleure organisation sur ceci ou sur cela. Donc au bout du compte, personne n'a la vérité absolue, quoi, hein. On n'est pas encore... Les adversaires de l'expérience humaine, leur première question, c'est de dire « Mais il y a une telle différence entre les animaux et l'homme que de toute façon, vous ne prédisez rien du tout. » Et ils vous citent un certain nombre d'exemples qui ne sont pas faux, où on n'a pas du tout anticipé dans les expériences préalables chez l'animal une conséquence néfaste après. Oui, c'est arrivé. Sauf que c'est la moins mauvaise des solutions. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas 100% des effets, mais on en prévoit 90 ou 95%. Et que si on le faisait avec autre chose, on n'en prévoirait même pas 50%. Donc c'est quand même la moins mauvaise des solutions. Mais il reste une... Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait encore quelques petites différences, parce que l'accent est plus mis dans tel continent ou dans tel autre, sur un point ou sur l'autre, à cause souvent du passé, hein, de la culture. Quand il y a eu une catastrophe sanitaire d'un type, on est plus vigilant, évidemment, sur les choses comparables.
Non, mais je pense que si on regarde l'échelle mondiale, je comprends mieux aussi que les boîtes pharmaceutiques soient aussi, si on veut dire, frileuses face à cette question, puisque ça
oui, mais vous savez, sera des conséquences. On est très, très loin de pouvoir homogéniser les choses. Prenez les dérivés du sang. Vous avez des pays qui n'acceptent que quand c'est des donneurs volontaires non rémunérés, d'autres qui n'acceptent que quand c'est des donneurs rémunérés. Vous avez des pays qui excluent les prisonniers, les ci, les ça, d'autres qui, au contraire, ont la plupart de leur recrutement dans des... Bon, c'est très complexe. Hein. Donc ça fait qu'après, par exemple, pour les immunoglobulines, c'est très difficile pour eux de vendre la même préparation de partout parce que les règles qui s'imposent sont différentes. Donc c'est vrai que pour eux, c'est pas simple. Ça, je reconnais. Mais ça a déjà été un progrès d'homogénéiser au niveau européen, parce que...
Dans une des préconisations, j'ai pas bien compris, vous avez proposé qu'au bout de... Alors, tu as parlé de 6 mois, mais c'est peut-être pas 6 mois. Si on s'était sur une piste qui ne déboutissait pas, hein, les laboratoires, enfin les chercheurs... mettre public, rendre public leur recherche. C'est ça que j'ai compris.
Oui,
est-ce que ça va être aussi
si facile
que
ça
parce que ça me paraît de me parler
délai. C'est un vœu, mais c'est pas,
oui.
On n'a pas encore trouvé les moyens.
Mais ce vœu-là me paraît étonnant parce que c'est pas dans la culture. Parce que rien ne dit que. Bon, à un moment, ça peut être une impasse. Mais peut-être qu'en attendant,
il y a une première étape qui est facile.
Tu auras des débouchés et tu n'es pas prêt de partager avec les autres des recherches que tu as faites et qui, un jour, pourront peut-être déboucher.
Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la voie de recherche. Ça ne veut pas non plus dire que tous les résultats sont définitifs, parce qu'on sait bien que pour qu'un résultat ait une certaine fiabilité, il faut au moins qu'il ait été vu 2 fois dans 2 laboratoires différents. Et avec les mêmes résultats, parce qu'on peut se tromper dans l'observation, il peut y avoir des hasards qu'on ne contrôle pas, etc. Bon. Mais malgré tout ça, on peut éviter quand même de faire des choses totalement inutiles. Alors, c'est plus facile dans les laboratoires publics, et ce qui est recommandé, sans en venir à une obligation, c'est qu'il y ait la possibilité d'enregistrer qui soit offerte. À partir, bon, schématisons. Quelqu'un veut faire une expérience pour tester telle ou telle molécule ou voie thérapeutique, ou que sais-je, sur des animaux. Il fait son expérience. Ça ne donne rien de très utilisable. Plutôt que de l'enfermer dans un tiroir, ce qu'on propose, c'est qu'il y a un endroit... ou soit incité à être colligé ces résultats, et que ça soit d'autant plus incité que si les chercheurs ont travaillé avec l'aide de l'argent public, hein, avec des subventions publiques, ce qu'ils auraient demandé en retour, c'est de donner le fruit de leur travail. Bon, ce qui est légitime. Hein. On reçoit une subvention publique, on fait un rapport à la fin, comme on doit toujours le faire quand on reçoit de l'argent public. Donc on fait son rapport et on en sait. Ensuite, que tout ça étant mis en ligne... Quand un laboratoire veut chercher, ben il regarde, est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait ? Libre à lui, après, de dire, non, mais ils ne l'ont fait pas dans les conditions que je souhaitais, ou ils ne l'ont pas fait assez bien, ou je voudrais aller voir plus loin, et on continue là-dedans. Hein. Mais on sait qu'il y a déjà quelque chose, quitte d'ailleurs à reprendre contact avec les chercheurs en question pour profiter de leur expérience, de leur cahier de laboratoire, ou que sais-je. Donc c'est un point qui... Alors, maintenant, je ne suis pas naïf sur les difficultés que ça représente dans l'industrie pharmaceutique. Parce que ça, le partage d'informations, ce n'est pas dans leur culture, effectivement.
Et marginalement, est-ce que je peux te poser la question, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais Comment tu expliques, alors tu l'as un peu dit, mais les retards à retirer certains médicaments, est-ce que les essais ont été mal faits? Est-ce que, ben, on pense au Mediator, on a cité dans l'Assemblée, dans la question d'actualité, le Distilbène à une époque. C'est-à-dire, alors la France, d'une part, a du mal à retirer plus rapidement que d'autres pays, mais est-ce que ces médicaments-là qui se sont révélés nocifs, ils avaient été mal testés?
Ah ben ça, c'est une vraie question d'organisation. Hein. Là, c'est d'organisation, je dirais même politique, dans notre pays. C'est que il faut faire comprendre que autant il n'est pas illégitime que de temps en temps il y a un accident thérapeutique. Personne n'est à l'abri de cela. Par contre, ce qui est illégitime, c'est à partir du moment où la connaissance existe. Le Distilbène, les connaissances sur les effets néfastes sur les filles nées de femmes traitées par Distilbène étaient déjà largement publiées aux États-Unis plus de 10 ans avant que ça ait été retiré en France. Et pendant ces 10 ans-là, on en donnait des quantités considérables, puisque toutes les grossesses qui se développaient difficilement étaient toutes soumises au traitement par Distilbène. Bon, là, le Mediator, c'est pareil, on le savait. Alors après, un des facteurs, c'est parfois les collusions d'intérêts, parce que les experts... Ça a été aussi discuté pour la grippe, pour ci, pour ça, pour les vaccins. Les experts, pour qu'ils soient compétents, il faut qu'ils travaillent dans le sujet. Mais s'ils travaillent dans le sujet, ils sont en même temps juges et parties. Donc ils ne sont pas complètement indépendants. Et donc on a une vraie difficulté là. Bon, il se trouve que tel représentant de tel laboratoire se retrouve quelquefois dans la commission ministérielle de ceci et de cela. Et qu'évidemment, bon, ce qu'il faudrait, c'est aussi arriver à faire comprendre que pour le laboratoire, ça va lui coûter beaucoup plus cher après, quand il va falloir indemniser. Hein. Parce que ce n'est pas seulement les drames humains. Il faut leur faire comprendre que... Parce qu'ils sont sensibles, en général, quand on parle à leur porte-monnaie. Qu'après, ça va être terriblement cher si... Parce qu'ils ne sont pas poursuivis tant que la connaissance n'existe pas. Mais dès que la connaissance existe, alors là, il va falloir qu'ils indemnisent. Hein. Donc, je crois que... Bon, mais souvent, c'est très fortement sous-estimé. Quoi. C'est cette culture de dire « Oh, bon, allez, un cas sur 10 000, bon, allez, ça fait partie du hasard. » Non, on n'a pas cette même acuité dans la pharmacovigilance qu'ont pu développer les Anglais ou les Américains, par exemple, pour donner cet exemple. Et chez eux, ils ont beaucoup moins de retard. Quand il y a quelque chose... La décision apparaît rapidement. Ils ont les mêmes erreurs au départ. Hein. Ils n'arrivent pas mieux à les prévenir que nous, à les prédire que nous. Mais par contre, ils réagissent plus vite. Nous, on a l'hormone de croissance, c'est pareil. L'hormone de croissance, on a continué à en distribuer alors qu'il y avait déjà des maladies de Creutzfeldt-Jakob chez. Bon, voilà. Avant qu'il y en ait qui ait été identifié, on peut incriminer personne. À partir du moment où il y a des cas, on ne voit pas pourquoi il a fallu encore continuer à écouler ces lots d'hormones de croissance. Le sang contaminé aussi, on a écoulé des facteurs anti-hémophiliques pour traiter des hémophiles, alors qu'on savait que dedans, ils étaient contaminés, ces lots. Et donc, bon, c'est là où Garetha a été condamné, etc. Mais on doit changer quelque chose dans notre culture. Et il faut probablement l'enseigner dès la fac de médecine, ça. Et ensuite, dans tous les organismes de santé, mais au bout du compte, c'est au niveau central des services de l'État qu'il faut induire une culture différente.
Oui, c'est pas une question, c'est juste une remarque par rapport au point précédent sur le fait d'essayer de promouvoir finalement les résultats négatifs. C'est pas seulement les résultats, c'est aussi comment on a obtenu ce résultat. Le protocole qui nous a permis d'obtenir ce non-résultat, finalement. Parce qu'en fait, un résultat négatif, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, si on ne refait pas le même protocole, on va dire, oui, il est peut-être négatif, ou au contraire, on va trouver quelque chose là où un autre n'a pas trouvé la même chose. Donc, c'était juste une précision sur le fait que ce n'est pas...
Ce qui est suggéré, c'est qu'il y a un rapport complet, qui est l'équivalent comme une publication, donc avec les matériels méthodes, avec les résultats, avec ça, et qu'il y a un vrai rapport, simplement... Ce rapport n'apparaissant pas dans la littérature scientifique internationale, mais dans un organisme où il peut être consulté.
Ça pose quand même le problème de la propriété intellectuelle.
Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça pose un problème.
Si on publie ce genre de choses, je pense que les Chinois, par exemple, qui fabriquent déjà un certain nombre de composés alors qu'ils sont protégés par des brevets,
ils n'hésiteront pas. N'hésiteront pas. Oui, n'hésiteront pas, c'est vrai. C'est vrai.
Oui, moi je voulais souligner quelque chose parce que là-dessus tu es resté discret, mais depuis que je vois au Parlement comment on transcrit les directives européennes, il est rare que les Français soient en amont d'une directive européenne. Si on a beaucoup de retard, nous, à l'Europe, alors ce n'est pas un lobby, là, hein, vous avez pris ça en amont, mais ceux qui veulent intervenir sont bien plus, les autres pays sont bien plus organisés et bien plus réactifs que nous. Et moi je trouve admirable, mais j'ignorais que vous étiez allé jusqu'à la directive européenne et qu'elle venait de sortir. C'est tout à fait remarquable et à souligner parce que c'est assez exceptionnel. Hein.
Là, il y a eu effectivement, à un moment donné, il y a eu un petit moment de panique quand les gens se sont dit ça risque de s'imposer à nous. Et bizarrement, les Allemands et les Anglais n'avaient pas réagi aussi vite. Alors qu'ils sont. Ah oui, en général, ils sont. En tout cas, d'ailleurs, quand il s'agit d'obtenir les fonds, les finances, ils sont en avance. Hein. Ils savent très bien se brancher sur les. Donc, mais je crois qu'en définitive, ce travail n'a pas servi seulement à la France, ça sert aux différents pays, parce que revenir après sur une interdiction qui aurait été promulguée de façon un peu intempestive, ça devient après insurmontable. Je pense qu'on a pu éviter, quand on a vu la première mouture, on était inquiet. Et on a pu éviter quand même certains excès dans les interdits qui étaient proposés.
Voilà, nous sommes au terme. Ah non, pardon, je crois qu'il y a une question. Non, mais je vous en prie.
J'ai quand même un grand doute. Là, maintenant, bon, je ne suis pas du tout scientifique, mais vous avez parlé de l'utilisation des animaux transgéniques. Bon, alors, est-ce que ça ne veut pas dire... J'ai absolument aucune formation scientifique. Donc, voilà pourquoi ça m'interpelle particulièrement. Est-ce que ça ne veut pas dire que, sur le plan biologique, il y a donc des différences, incontournables entre l'homme et l'animal, vous semblez avoir recours à des animaux transgéniques. Moi, j'apprends ça ce soir. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ce recours à des animaux transgéniques. Je suis sidérée. Voilà.
Expliquez-moi votre...
Je me dis que si on a recours à des transgènes pour faire de l'expérimentation animale, c'est que les animaux
imaginez qu'on découvre chez l'homme une maladie rare qui survient sur un sujet sur un million et qu'on se dise est-ce que c'est pas le manque de cette molécule venant de tel gène qui etc. Si vous voulez attendre de tester un million d'animaux pour avoir la chance de trouver la souris qui vous mettra, donc ce que vous faites tout simplement la modification du gène en question, et vous avez ce qu'on appelle un animal transgénique et qui vous crée la maladie en question. Dans ces animaux transgéniques, en définitive, on reproduit de façon régulière des maladies qui sinon seraient exceptionnelles ou des modifications exceptionnelles. Pour traiter des maladies, oui.
Ah,
si vous voulez comprendre des maladies et les traiter, oui.
J'y vais encore.
Et oui, mais il y en a énormément de ces maladies. Pour presque chacun de nos gènes, il y a des cas de maladies. Il y en a qui sont très fréquentes. La trisomie 21, la thalassémie, la mucoviscidose. Bon. Et puis il y en a qui sont très rares. Mais si vous les ajoutez toutes, ces maladies rares, au total, c'est très fréquent. C'est toutes les anomalies de l'enfance, hein, toutes les maladies héréditaires. Toutes ces maladies-là, pour l'instant, si on veut progresser, il faut que l'on puisse avoir une connaissance. Et pour la, je vous donne un exemple. Il y a une maladie qu'on appelle le déficit immunitaire combiné sévère. Moi, j'y travaille depuis longtemps. On a fait les premières greffes de cellules fœtales pour traiter ces enfants. Et ensuite, on a fait les premières greffes in utero, d'ailleurs, en 88, c'est-à-dire... Lorsqu'on fait un cycle prénatal, on peut greffer les cellules sur le fœtus humain et on guérit le fœtus humain avant même qu'il ne naisse. Bon. D'accord. Sauf que toutes ces techniques, toutes ces thérapeutiques, ça, c'est des choses qui sont complexes. Et en vérité, il y a plusieurs variétés de déficits immunitaires. Si on veut avancer, il y avait une seule espèce animale qui avait ça. C'était des poulains qui... De lignée arabe qui de temps en temps exceptionnellement avait cette maladie. Ah oui, vous voyez combien on peut faire d'expériences là-dessus. C'était quasi impossible. Bon, À partir du moment où il y a des souris qui, maintenant, ont ces différentes variétés de déficit immunitaire, on peut progresser à une vitesse considérable. Et c'est même si important que les souris qui ont ces déficits immunitaires, on peut maintenant leur greffer des cellules humaines. Donc ça devient ce qu'on appelle des chimères. On appelle ça des souris humanisées. Donc ce sont des souris, mais elles ont un système immunitaire humain. Et eh bien, ça nous fait un modèle pour... Non, mais ça nous fait un modèle pour tester le sida, par exemple. Parce que le sida, vous voulez progresser comment pour le sida? Il n'y a que les humains et les singes qui peuvent s'infecter par le virus. Si vous voulez progresser pour développer de nouveaux médicaments, eh bien là, vous avez une souris avec des cellules humaines et vous avez un modèle in vivo pour tester tous les nouveaux médicaments. Donc ça vous apparaît. Je comprends que ça puisse vous apparaître effrayant parce que c'est... Voilà. Non, mais non. Mais nous sommes une sorte d'animaux. Et non, ben les hommes aussi. On pourrait faire des humains transgéniques si on voulait, sauf qu'on se l'interdit. Mais on pourrait. À vrai dire, il y a des fois, on injecte des cellules qui sont génétiquement modifiées chez l'homme pour traiter certaines maladies. Mais on ne fait pas de la transgénèse, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas. Parce que ce qu'on s'interdit, c'est de jouer sur la reproduction, sur le patrimoine génétique. Donc on se l'interdit pour des raisons éthiques évidentes. Mais c'est la même chose. Hein. Les humains, vous savez, la fécondation in vitro, ça a été testé chez l'animal, ça a été appliqué à la femme, et c'est exactement pareil. Hein. Il n'y a pas de différence. Franchement, on est une variété d'animaux, avec quelques différences peut-être, mais comme il y a des différences entre les différents animaux. Donc non, moi je dirais pas que ça établit une quelconque différence. Ça. La transgénèse serait possible, sauf qu'on se l'interdit pour un respect effectivement plus important pour l'espèce humaine que pour les autres animaux. Bon, après, on peut discuter si on a raison de mettre la frontière entre les humains et les autres.
Dernière question de la journée.
Oui, alors c'est pas réellement une question, c'était juste pour réagir à ce que disait madame. Avec un autre exemple, où si on prend la maladie de Parkinson, qui est la deuxième affection neurodégénérative la plus répandue, il existe a priori aujourd'hui pas de modèle animal naturel connu de la maladie, c'est-à-dire qu'aucun animal va développer naturellement la maladie de Parkinson. Par conséquent, si on veut développer des traitements pour ces patients-là, qui sont parfaits nombreux, il faut bien pouvoir s'appuyer sur un modèle animal. Donc ça passe notamment par la transgénèse. Donc ça crée des modèles animaux qui, c'est vrai, ne sont pas naturels. On est bien d'accord. Par contre, à un moment donné, il faut faire un choix. Soit on propose à ce moment-là d'évaluer l'effet de certains médicaments directement chez l'homme, ce qui, je pense que ça ne puisse pas être acceptable directement. Soit après, on se propose une solution alternative qui, c'est vrai, va modifier la physiologie naturelle de l'animal.
Je comprends les interrogations, madame. C'est parce que vous découvrez subitement ça sans avoir eu toutes les étapes intermédiaires. Et c'est là où on voit qu'il n'y a pas assez d'explications. Vous avez raison de l'exprimer comme ça. Et nous, ça nous dit qu'il y a insuffisamment d'explications de pédagogie, de vulgarisation. Parce que comprenez comment c'est arrivé. C'est pas arrivé un jour, un esprit farfelu, je vais modifier les gènes de l'espèce. Non, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a déjà très longtemps que dans les espèces animales, on fait des croisements consanguins et qu'on crée des animaux artificiels. Les chiens de compagnie que vous avez ne sont pas naturels. Ils ont été l'objet de croisements consanguins multiples pour avoir des lignées particulières. Les souris de laboratoire, elles n'ont rien à voir avec la souris qui est dans votre cave. Elles ont été 40 fois traitées de façon consanguine et vous avez des lignées qui ont des caractéristiques propres. Et sont des lignées, ce qu'on appelle pures, c'est-à-dire que toutes sont pareilles, elles reproduisent les mêmes choses et on a besoin de ça pour pouvoir progresser. Donc certaines développent un diabète, d'autres n'ont pas de poils, les autres sont toutes noires, les autres blanches, etc. Elles sont des caractéristiques, bon, hein, elles ont des noms scientifiques, C57BL, BLBC, etc. Mais voilà. Donc ça a été fait par les méthodes de la génétique et de la reproduction jusqu'à maintenant. Et un jour, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire en modifiant les gènes. Donc c'est un pas de plus. Mais ce n'est que la même logique qui chez l'homme est interdite, parce que chez l'homme, ça s'appellerait de l'eugénisme. Et donc on se l'interdit.
Voilà, je crois que je vais interrompre les débats passionnants. Lorsque j'avais demandé à Catherine Coutel et Alain Claës de venir ce soir, j'avais dit eh bien, avec trois députés, on pourrait faire une séance de nuit à l'Assemblée nationale.
Non, non, parce que ça mine trop tard, les séances de nuit à l'Assemblée nationale.
On va commencer la séance à 10h.
Oh, ben, vous pouvez y aller alors. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons traité le sujet pendant 13 heures.
Bravo.
Et on s'aperçoit qu'on est loin d'être arrivé au bout, puisque finalement, vous ouvrez de nouvelles perspectives. Et je pense qu'on aura sans doute l'occasion, ici, dans cette maison et ailleurs, de traiter de nouveau ce sujet, en espérant voir une évolution favorable et répondant aux préoccupations de la population dans tous les sens du terme. Merci beaucoup aux intervenants, à ceux qui sont restés depuis ce matin avec nous. Et je vous souhaite une bonne nuit.